VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Dakar, 18h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. En Centrafrique, jour J-3, avant la publication des résultats définitifs des élections présidentielles et législatives lundi. D'où l'émotion suscitée par l'attaque contre le domicile de la présidente de l'ANE, l'autorité nationale des élections, Marie-Madeleine Nkoué-Ornaër. Des hommes non identifiés à moto aurait jeté une grenade dans sa concession à Bangui. Les explications du porte-parole de l'ANE, Julius Ruffin Gwadibaba, joint par Pascaline Magalé.
Ce n'est pas aujourd'hui, hein. Depuis qu'on a commencé à enregistrer les candidatures, nous recevons des menaces. Déjà à l'époque de l'enregistrement des candidatures, moi par exemple, j'ai reçu des SMS anonymes qui me disait si vous vous amusez à invalider des candidatures, vous allez voir ce qui va vous arriver, des propos de ce genre. Et donc, c'est régulièrement que nous recevons des menaces. C'est ainsi donc que, hier, à 21h très exactement, deux individus sur une motocyclette se sont arrêtés, non loin de la concession de Ornaïer, la présidente de l'ANE. Ils ont d'abord tiré un coup de feu à l'arme automatique et ils ont lancé la grenade. Mais la grenade a été retenue par la grille de sa concession et donc la grenade a explosé dehors, faisant des fissures sur le mur de sa clôture.
Cette attaque a-t-elle quelque chose à voir avec le résultat provisoire des élections groupées ?
Bien sûr, tout est lié aux élections. Madame Koué, quand elle n'était pas présidente de l'ANE, ni membre de l'ANE, n'a jamais reçu de menace. Tout est enfin lié aux élections. Est-ce que c'est par rapport aux résultats, par rapport aux candidatures et tout genre? Ça, maintenant, il faut des investigations pour déterminer, mais en tous les cas, tout est lié aux élections. Les investigations sont en cours parce qu'il y a eu des actes isolés ces derniers jours. Les services de sécurité nationale sont en pleine investigation et attendant la suite.
Julius Ruffin Gwadibaba, porte-parole de l'autorité nationale des élections en Centrafrique. Crise au Burundi maintenant, la délégation des 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU qui séjourne dans le pays depuis hier pour promouvoir le dialogue entre le gouvernement et l'opposition est en consultation en ce moment même à Gitega avec le président burundais Pierre Nkurunziza dans l'espoir de parvenir à son objectif. Mais les violences continuent dans le pays. À preuve, les tirs nourris et jets de grenades dans trois quartiers de la capitale Bujumbura dans la nuit de jeudi à vendredi. Des incidents qui ont fait au moins 3 morts et plus de 12 blessés, selon le porte-parole de la police burundaise. Plus de détails avec notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
Les quartiers contestataires de Cibitoke, Biza, Uterere et Mutakura ont été jeudi soir le théâtre de violents affrontements entre la police et des hommes armés que la police qualifie d'insurgés posant des actes de terrorisme. 3 personnes ont été tuées, c'est selon Pierre Ngurikiye, porte-parole de la police. Il a également fait état de 12 personnes blessées, tandis que 2 personnes ont été arrêtées. Les enquêtes pour connaître s'il y a eu une relation entre ces violences et la venue pour la deuxième fois en une année du Conseil de paix et de sécurité des Nations Unies au Burundi ont débuté, selon la police qui éclaircira la situation après enquête. Entre-temps, les 15 membres du Conseil de paix et de sécurité des Nations Unies continuent à s'entretenir avec les autorités burundaises, l'opposition et la société civile. Pour Hervé Latsou, chef des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, la situation se détériore de jour en jour et les mois de novembre et décembre derniers ont vu une augmentation significative des violences et des assassinats dans ce petit pays de 27 834 km² qui vit essentiellement de l'agriculture et de l'élevage. Les Nations Unies auront beaucoup à faire au Burundi, surtout qu'un groupe armé présidé par l'ancien putschiste général Godefroy Niyombare, les forces républicaines, a vu le jour. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Un cadre des Forêts-Bou, les forces républicaines du Burundi, a dit à l'AFP sous couvert d'anonymat que les attaques de la nuit passée contre la police à Bujumbura visaient à montrer au Conseil de sécurité de l'ONU que le Burundi était déjà dans la guerre. Avant leur consultation avec le président Nkurunziza, les 15 diplomates du Conseil de sécurité avaient déjà eu des entretiens dans la matinée avec notamment le ministre des Affaires étrangères Alain Niamitwe et le vice-président burundais Gaston Sindimro. Parmi les objectifs des visiteurs, rappelons-le, convaincre les autorités burundaises d'autoriser le déploiement d'une force africaine dans le pays à laquelle Bujumbura s'oppose jusqu'à présent catégoriquement.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Burkina Faso, un dépôt d'armes et de munitions de l'armée burkinabé près de Ouagadougou a été attaqué aujourd'hui. C'est ce qu'affirme un communiqué des autorités. Aux environs de 3 heures, heure locale et temps universel, une tentative d'incursion n'ayant fait aucune victime a eu lieu au niveau du magasin d'armement de Yimdi à 20 km à l'ouest de Ouagadougou. Souligne ce communiqué qui précise que les auteurs de cette tentative ont été identifiés comme des éléments récalcitrants de l'ex-RSP, l'ancien régiment de sécurité présidentielle à l'origine du putsch raté de septembre dernier. Les autorités burkinabées soulignent aussi que les assaillants ont pu s'emparer d'armes et de munitions avant de prendre le large. En Guinée-Bissau, le président José Mario Vaz promet d'engager des consultations avec les forces vives de la nation pour essayer de trouver une solution de sortie de crise dans le pays. Plus de détails avec notre correspondant à Bissau, Noa Mankali.
Après 5 jours de silence, le chef de l'État José Mario Vaz s'est finalement prononcé sur l'impasse politique à travers un communiqué de presse auquel nous avons eu accès. D'après ce communiqué, José Mario Vaz a promis de commencer des contacts avec les différentes forces vives de la nation afin de trouver une meilleure solution de sortie de crise. Pour cette raison, souligne le communiqué, le chef de l'État considère très importante la création d'un meilleur climat de dialogue et de contention verbale afin de sauvegarder une meilleure tranquillité sociale dans le pays. S'adressant aux forces de défense et de sécurité, le chef de l'État bissau-guinéen José Mario Vaz a salué la haute maturité démontrée dans l'accomplissement de leurs devoirs constitutionnels. Toujours citant le communiqué de la présidence de la République, le premier magistrat de la nation a aussi félicité et remercié la société civile, bien comme la communauté internationale, pour leur participation active à la recherche de solutions de sortie de crise. Le président José Mario Vaz a appelé aux acteurs politiques d'observer rigoureusement la constitution de la République pour la consolidation de l'état de droit. Nouama Kélibissau, VOA Afrique.
Afrique du Nord maintenant, en Tunisie, un couvre-feu nocturne a été décrété sur l'ensemble du territoire. Depuis plusieurs jours, des manifestations parfois violentes ont atteint plusieurs villes du pays. Le point avec Idriss Fall.
La grogne sociale a débuté samedi à Kasserine lorsqu'un jeune chômeur, Rida Yahyaoui, est mort électrocuté en protestant contre son retrait d'une liste d'embauche de la fonction publique. À Sidi Bouzid, où fin 2010, l'immolation d'un jeune avait déclenché le printemps arabe, le gouvernorat est placé sous la protection de l'armée à cause des manifs. Ce mouvement s'est propagé comme une traînée de poudre. Dans le Grand Tunis, 2 magasins et 1 banque ont été saccagés. Les heurts avec les forces de l'ordre ont duré jusqu'à 5 heures du matin. D'après Walid Louguini, porte-parole du ministère de l'Intérieur, au plan national, 3 postes de police ont été attaqués et 42 membres des forces de l'ordre blessés. Le couvre-feu est décrété de 19h à 4h, temps universel. Le premier ministre Habib Essid a dû écourter sa tournée en Europe. Après le forum de Davos, il s'est arrêté à Paris où le président François Hollande a promis 1 milliard d'euros sur 5 ans. Monsieur Essid doit réunir demain une cellule de crise. Il a affirmé que la situation est maîtrisée, mais a reconnu qu'il n'avait pas de baguette magique pour résoudre tous les problèmes d'emploi et tout de suite.
Actualité aux États-Unis. Washington a commencé hier à appliquer les nouvelles règles plus contraignantes concernant les exemptions de visa pour les personnes qui ont séjourné en Iran, en Irak, en Syrie et aussi au Soudan. Plus le point avec Eric Manirakiza.
Le département de la sécurité intérieure a décidé que les visiteurs souhaitant venir aux États-Unis et qui ont séjourné en Iran, Irak, Soudan ou en Syrie depuis 2011 auront à présent besoin d'un visa. Les personnes qui ont la double nationalité iranienne, irakienne, soudanaise ou syrienne devront aussi solliciter un visa. Cette contrainte administrative devient obligatoire même si ces personnes viennent de la quarantaine de pays exemptés de visa. Ces nouvelles mesures ont été décidées dans la foulée des attentats de Paris en novembre dernier et de San Bernardino début décembre. La loi votée par le Congrès a été signée par le président Barack Obama. Environ 20 millions de personnes viennent aux États-Unis chaque année sans visa pour des séjours d'au moins de 90 jours, dont quelques 13 millions d'Européens qui doivent remplir en ligne le formulaire ESTA.
Et pour terminer, la directrice générale du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, a annoncé aujourd'hui sa candidature à un deuxième mandat à la tête de l'institution financière internationale. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.